Radio Kapi.
Oh, Kapi. Campagne sur le civisme fiscal et la gestion responsable des deniers publics. Le coup d'envoi a été donné hier à Kinshasa par le président de la République. 6 personnes, dont 4 rebelles ADF tués, 30 maisons et une dizaine de motos incendiées. Bilan des affrontements hier entre l'armée et un groupe de ces miliciens à Ndimo en Ituri. L'armée affirme avoir repris le contrôle de la zone, mais invite les usagers de la RN4 au respect des consignes sécuritaires lors des convois sur cet axe. Notre invité, c'est le procureur général près la cour d'appel du Kassai central du Donin Kongolo, revient sur la libération d'une vingtaine de condamnés de la prison centrale de Kananga et en bénéficier de la mesure de grâce présidentielle. Bonsoir à tous. Le président Félix Tshisekedi a donné hier samedi à Kinshasa le coup d'envoi de la campagne sur le civisme fiscal et à la gestion responsable des deniers publics initiée par la Coordination pour le changement des mentalités, CCM, une structure de la présidence de la République. À cette occasion, Félix Tshisekedi a donné l'exemple en s'acquittant lui-même de son impôt en tant que citoyen et a dit son engagement pour la réussite de cette campagne. On écoute le chef de l'État dans ses propos recueillis par Jean-Pierre Elali Koko.
C'est dans cette optique que j'apporte tout mon soutien à la campagne de sensibilisation au civisme fiscal et à la gestion responsable des deniers publics en République démocratique du Congo, afin d'affirmer haut et fort ma détermination de tourner résolument notre pays vers des lendemains meilleurs. La mauvaise gestion des ressources publiques mobilisées a contribué à réduire la confiance des Congolais et des étrangers ayant choisi notre pays comme leur seconde patrie en nos administrations fiscales et, par conséquent, a fragilisé depuis l'élan de la mobilisation des recettes. C'est ici pour moi l'occasion de rappeler que le peuple n'accordera aucun pardon à tout celui qui entravera sa marche vers le progrès. À cet égard, il revient aux gestionnaires d'aligner leur action sur l'éthique de responsabilité pour recouvrer la confiance du contribuable. L'éthique postule aussi que toute responsabilité implique l'obligation de répondre de ses actes et d'en assumer pleinement les conséquences. En outre, j'invite la population congolaise en général, les opérateurs économiques en particulier, à refaire confiance aux dirigeants et à cultiver le civisme fiscal en s'acquittant régulièrement de tous les impôts, taxes et redevances dues.
Notons que dans le même ordre d'idées, le ministre des Finances, Olivier Kazadi, a annoncé la création d'un numéro vert gratuit appelé Finance Alerte, ainsi qu'une plateforme numérique au service du public pour dénoncer tous les abus constatés, des cas de corruption, des concussions et de coulage dans la gestion des recettes publiques. La campagne s'étalera sur 6 mois, soit du 21 septembre 2021 au 21 mars 2022, sur tout le territoire national. Braquage d'un convoi transportant plus de 290 millions de francs congolais destinés à la paie des enseignants du territoire de Punia. Les députés provinciaux élus de cette circonscription électorale haussent le ton. Kalukula Lutaka Gaspar a, dans une interview accordée à la presse hier samedi, demandé au gouverneur du Maniema d'activer ses services afin que ces 1600 enseignants environ soient rétablis dans leurs droits. Le député Kalukula Lutaka est au micro de Florence Giza.
J'ai appris cette situation avec beaucoup de tristesse et beaucoup de regrets parce que les pauvres enseignants de Punia, ce n'est pas pour la première fois qu'ils viennent connaître cette situation, cet acte ignoble. C'est pour la seconde fois. Pour la première fois, c'était en 2017. Pour le mois de juillet, que leur enveloppe a été emportée par des coupeurs de route. Et jusqu'à l'heure qu'il est, il y a certaines personnes qui continuent à croupir dans la prison et il n'y a jamais eu la solution en termes de récupération de cet argent-là. Cette fois-ci, c'est 292 millions 531 000 francs congolais destinés pour plus de 1600 enseignants qui a été emporté par de mes armées. La justice, c'est d'être vraiment juste, équitable, impartial pour que les pauvres enseignants puissent puissent être rétablies dans leurs droits. Parce que notre justice, nous connaissons la manière dont elle fonctionne, que ce soit une justice qui donne la chance à tout le monde. Et nous allons poursuivre ces gens-là jusqu'à la dernière énergie pour que la justice soit équitablement faite.
La relance de la réforme des entreprises publiques, la redynamisation du projet de la société de fibre optique sont entre autres des réalisations entreprises par Madame la ministre du Portefeuille dont les premiers 100 jours de sa nomination. Adel Kaninda l'a dit hier samedi au cours d'un point de presse à Kinshasa. Adel Kaninda est au micro de Paul Matendo.
La relance de la réforme des entreprises publiques qui, faute de la volonté politique et de moyens, s'était pratiquement arrêté au premier volet, à savoir la transformation en société commerciale, mais qui continue à être gérée comme des entreprises publiques. La reprise et la redynamisation du projet de la société de fibres optiques, SOCOF en sigle, qui s'est achevée le 30 juin 2021 et qui consiste au déploiement du réseau de fibres optiques sur la partie ouest du pays, Kinshasa-Moanda. La finalisation du processus de la mise en application de la convention de collaboration portant sur la mise en concession des infrastructures ferroviaires en République démocratique du Congo.
Rendons-nous dans la province du Congo central. 40 détenus de la prison centrale du camp Molaï ont été libérés hier samedi à Matadi. Ces personnes ont été graciées par le président Félix Tshisekedi le 30 juin dernier. La cérémonie marquant leur libération s'est déroulée en présence du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Matadi, Piepi Mukuna, à Chileu. Nana Purichmambo pour le nous fait le point.
Parmi les 40 condamnés qui ont recouvré leur liberté, 26 ont bénéficié de la remise des peines restant à exécuter. 13, leurs peines ont été réduites. Ils se sont retrouvés dans les cas de libération par rapport à leur date d'arrestation. Ils ont bénéficié de la grâce présidentielle suivant l'ordonnance portant mesures collectives de grâce numéro 21/059 du 28 juillet 2021, signée par le président de la RDC. Selon le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Matadi, l'éligibilité de ces bénéficiaires dépendait des motifs de leur arrestation et de la durée de la peine purgée. Avant de les libérer, Piepi Mukuna Chileu a prodigué quelques conseils aux bénéficiaires de la grâce présidentielle.
La grâce présidentielle n'est pas significative d'un blanchissement où vous devenez humanisé. Une fois vous franchissez la porte de la prison, vous commettez une infraction, on vous prend, on vous retourne dedans.
Pour la directrice adjointe de ces centres pénitentiaires, malgré la remise en liberté de ces 40 pensionnaires, les conditions d'incarcération demeurent une préoccupation. Apollonia Longo.
La prison centrale de Matadi a une capacité initiale de 150 détenus. Au moment où nous parlons, nous sommes au-delà de 700. Nous n'avons que 10 pavillons. Lorsque vous avez plus de 100 détenus dans un pavillon de moins de 3 mètres carrés.
Matadi, Nana Purich Mambu, Radio Okapi.
Je l'ai dit dans les titres, en Ituri, 6 personnes, dont 4 rebelles des ADF, ont été tuées au cours des affrontements hier entre l'armée et un groupe de ces rebelles, l'Ougandais, à Ndimo, près du centre commercial de Komanda. La société civile locale indique qu'au cours de ces combats, 30 maisons des civils et une dizaine de motos ont été incendiées par ces inciviques. L'armée, qui affirme avoir repris le contrôle de cette zone, appelle les usagers de la route nationale numéro 4 au respect des consignes sécuritaires lors de convois sur cet axe. Le point avec Ezekiel Mousalia.
À en croire la société civile locale, les assaillants ont surgi de la brousse, croyant intercepter la soixantaine des véhicules que convoyaient vendredi les militaires des FARDC et les casques bleus de la MONUSCO. Un membre du bureau de coordination de cette structure citoyenne affirme que 2 civils, dont une femme, ont été tués par balle. 34 maisons, dont un hôtel complètement incendié, indique Dieudonné Malangaï.
Pour nous, on connaît qu'il y a les maisons de nos civils incendiées, de nos amis vieux, donc les habitants ont fui dans la brousse jusqu'à cette réussite.
L'armée a répliqué, l'échange des tirs entre les deux camps a occasionné la mort des 4 rebelles des ADF, renseigne le porte-parole de l'armée en Ituri. Lors de cet accrochage, 3 militaires des FARDC ont été blessés et transférés dans une formation médicale à Komanda. Le lieutenant Jules Ngongo.
Pour le moment, le bilan depuis le matin, il y a eu 3 blessés légers du du côté forces armées et puis 4 éléments ADF neutralisés. Nous attaquons l'ennemi en profondeur. Entre-temps, nous sécurisons nos compatriotes. Voici l'idéal pour nous.
Signalons que ces combats ont eu lieu après le passage du convoi des véhicules qu'escortaient la MONUSCO et les FARDC sur la RN4 dans le sud du territoire d'Irumu. Bounia, Ezekiel Muzalia, Radio Okapi.
Et puis, deux corps sans vie ont été découverts samedi soir à Baboukela, dans les territoires d'Irumu en Ituri. Les victimes font partie d'un groupe de 4 opérateurs économiques enlevés le même jour par des hommes armés identifiés à un groupe de miliciens de la Force patriotique et intégrationniste du Congo, FPIC. Ces habitants quittaient la localité de Mbalana, dans le secteur de Banyalikilo, pour se rendre à Bounia lorsqu'ils ont été surpris par leurs ravisseurs après 3 km de marche. Ces inciviques leur ont arraché leurs biens avant de les conduire dans la brousse où deux d'entre eux auraient été tués par balle, indique un notable du milieu. Les corps ont été rapatriés dans leur village grâce au concours des jeunes du milieu, souligne de son côté le président de la communauté Niali qui s'inquiète du sort des deux autres otages. À cause de la psychose causée par cette situation, des centaines de personnes ont été prises des paniques, ajoute Vital Tungulo. Dans la province de l'Atchopo, une délégation de la société civile et des activistes de droits de l'homme séjourne à Kisangani depuis la semaine dernière. Appuyée par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, elle a pour mission de sensibiliser la population sur l'implémentation de la justice transitionnelle en République démocratique du Congo. Pendant son séjour à Kisangani, cette délégation a rencontré les autorités provinciales, les membres de l'Assemblée provinciale ainsi que la société civile. Au cours d'un point de presse organisée hier, la délégation s'est exprimée sur les mécanismes de fonctionnement de cette justice. Maître William Ouinga, membre de la délégation, explique au micro de Jacques Moukonkolé.
D'abord, la partie justice qui comprend les tribunaux nationaux, les tribunaux internationaux et les tribunaux internationalisés. Là, on voit les chambres mixtes. Bien sûr, il y a aussi ce qu'on appelle la justice coutumière. Mais malheureusement, ce n'est pas trop appliqué ici chez nous en République démocratique. Pour la partie vérité, la vérité judiciaire et historique, il y a la commission vérité et les enquêtes par rapport aux apports qui doivent être menés à tous les niveaux. Parce que nous avons affaire à des crimes imprescriptibles. Quand on parle de crimes imprescriptibles, on voit les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide. La partie réparation, il y a des réparations individuelles, là on voit des restitutions et des indemnisations. On doit indemniser quand même des gens, mais avant d'indemniser, il faut d'abord savoir qui on doit indemniser. C'est un travail qui doit se faire sur terrain pour savoir qui est réellement victime et qui n'est pas victime. Des réparations collectives. La partie de non-répétition, d'une importance capitale. Il faut réformer les institutions, la réforme des institutions à tous les niveaux. Nous avons le programme DDRR. Le président de la République venait de nommer un coordonnateur qui va s'occuper de ce programme-là. Voilà en quelques mots ce que nous sommes appelés à faire.
Signalons que l'Assemblée provinciale a promis d'initier un édit devant définir les modalités de la mise en œuvre de la justice transitionnelle. Retournons au Maniema où le Conseil provincial de la jeunesse s'élance dans la sensibilisation des jeunes sur les mesures de protection au VIH-Sida. Cette campagne a été lancée officiellement hier samedi par le président de cette structure en province et vice-président national du Conseil de la jeunesse. Dans son adresse, Atibou Katamea a dit avoir lancé cette activité vu la recrudescence de cette maladie dans la province et vu que les jeunes constituent une cible. Ce dernier demande à tous de s'approprier cette lutte. On l'écoute dans ses propos recueillis par Florence Kiza.
Vous comprendrez avec nous qu'aujourd'hui, les Maniema et la ville de Kindu en particulier sont des milliers les plus touchés en termes de taux de prévalence en VIH-Sida. C'est comme ça qu'en tant que conseil provincial de la jeunesse, moi-même bien sûr ayant aussi la casquette du vice-président national, nous nous sommes décidés de venir vers nos peurs jeunes afin de les sensibiliser comment lutter contre le VIH-Sida. Parce que c'est une maladie qui tue à petit feu. Les jeunes sont plus intéressés de la politique, sont intéressés par autre chose et pourtant il y a une pandémie qui est en train de ravager les jeunes, qui est en train pratiquement de tuer les jeunes à petit feu. C'est comme ça que nous sommes venus vulgariser le mesure de prévention de cette maladie et comment lutter également contre les grossesses précoces. C'est d'abord l'abstinence. Et puis, pour les jeunes qui ne sont pas à mesure de pratiquer l'abstinence, c'est d'utiliser les préservatifs et aussi la bonne fidélité et enfin d'utiliser correctement les objets tranchants. La motivation de cette activité, c'est les soucis que nous avons de la jeunesse du Maniema. Parce que c'est pratiquement la couche la plus touchée et demander à cette même occasion à tous les jeunes qui nous écoutent en ce moment de s'approprier cette lutte.
Toujours au chapitre santé, la ville de Bounia enregistre en moyenne 3 cas positifs de Covid-19 par jour. C'est le médecin, chef de la zone de santé de Bounia, qui l'a dit vendredi à Radio Capi. Le docteur Prosper Oukourfois indique qu'environ 230 cas de coronavirus sont sous traitement et plus de 1000 personnes sont déjà guéries de cette épidémie. Il appelle de nouveau la population au respect strict des mesures barrières, surtout dans les lieux publics. Le docteur Prosper Oukourfois le dit au micro d'Ezekiel Mouzalia.
Nous n'allons pas dire qu'il n'y a pas de cas. Ce n'est pas que nous notifions 0 cas de Covid par jour. Chaque jour, l'hôpital général, à travers notre laboratoire, notifie au moins 2-3 cas de Covid par jour. Ce n'est pas pour autant que je vais dire à ma population, on était hier à 80 cas par jour, aujourd'hui nous avons 2-3 cas, ça signifie que nous devons relâcher. Parce que l'unique cas peut exploser. Nous devons plutôt dire que, bravo à notre population, nous avons compris la chose. Aujourd'hui, je suis sûr que la population a accepté que la maladie existe. La population a vu les dangers de cette maladie. La population a vu et a compris que ça peut se propager vite et que les personnalités peuvent en mourir, mais plutôt les encourager à maintenir les mesures de prévention plutôt que de relâcher.
Actualité internationale.
Présidentielle française en 2022, Anne Hidalgo se déclare candidate pour offrir un avenir à tous les enfants français. La maire socialiste de Paris a annoncé officiellement sa candidature ce dimanche à Rouen. « J'ai décidé d'être candidate à la présidence de la République française », a déclaré devant ses partisans à Rouen, dans l'ouest du pays. Madame Hidalgo, 62 ans, créditée selon les sondages actuels de 7 à 9% des intentions de vote au premier tour, un résultat qui serait largement insuffisant pour se qualifier au second tour. « Nous devons réinventer notre modèle français fragile par ces crises multiples », a également lancé la candidate, affirmant vouloir rétablir le respect et l'unité du pays. Le gouvernement américain a déclassifié hier samedi 11 septembre 2021 une note du FBI qui renforce les soupçons d'implication de Riyad dans les attentats du 11 septembre 2001 commis par Al-Qaïda, sans toutefois fournir les preuves qu'espéraient les familles des victimes poursuivant l'Arabie Saoudite en justice.
L'invité.
Comme annoncé, le procureur général près la cour d'appel du Kassai central et notre invité, Dieudonné Nkongolo, revient sur la libération d'une vingtaine des condamnés de la prison centrale de Kananga et ont bénéficié de la mesure de grâce présidentielle. Selon les critères d'éligibilité, les personnes libérées sont celles qui ont été accusées, entre autres, pour escroquerie, abus de confiance et vol qualifié. Dieudonné Nkongolo s'entretient avec François Kadima.
Monsieur le PG Dieudonné Nkongolo, bonjour.
Bonjour.
Vous avez procédé à la libération de certains prisonniers. Combien ont bénéficié de cette grâce et vous êtes appuyé sur quel texte?
C'est exactement 26 condamnés qui ont bénéficié de la mesure collective de grâce prise par le chef de l'État. Parce qu'après les festivités du 61e anniversaire de notre pays à l'indépendance, le chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a signé une ordonnance. Il s'agit exactement de l'ordonnance numéro 21/59 du 28 juillet 2021 portant mesures collectives de grâce et tous les procureurs généraux de la République ont été instruits de cette mesure qui nous a été transmise par le procureur général près la Cour de cassation, notre chef, pour exécution urgente. C'est ce qui a été fait. Donc ceux qui ont été libérés, ils ont bénéficié, ce sont des condamnés qui ont bénéficié de la mesure de grâce présidentielle.
Et pour quel genre de cas, par exemple, quels sont les faits pour lesquels ces personnes ont bénéficié de cette libération, par exemple?
Donc, en fait, il s'agit des remises de peine. Hein. Il y a des gens qui ont été condamnés, c'est-à-dire des décisions qui sont devenues irrévocables à partir du 30 juin 2021. Il y a ceux qui étaient condamnés à moins de 5 ans, ceux qui étaient condamnés au-delà de 5 ans, et des gens qui ont été condamnés à mort, qui ont vu leur peine commuée en servitude pénale à perpétuité, des condamnés à perpétuité qui ont vu leur peine commuée à temps, c'est-à-dire à 20 ans. Donc, il y a plusieurs catégories. Et en ce qui concerne les infractions, ce n'est pas toutes les infractions qui sont visées, c'est-à-dire être condamnés. Hein, l'ordonnance est claire. Pour ceux qui sont condamnés, par exemple, pour violence sexuelle, ils sont écartés du bénéfice de cette mesure, du détournement des deniers publics et concussion, corruption, des rémunérations illicites, ceux qui sont poursuivis pour des assassinats, des crimes de sang, assassinats, meurtres, vols à main armée, associations de malfaiteurs sont écartés de cette mesure, ils ne peuvent pas en bénéficier. Ceux qui sont poursuivis aussi pour atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État n'en bénéficient pas. Donc généralement, c'est des personnes qui sont poursuivies pour escroquerie, abus de confiance, vol qualifié, qui ont bénéficié de cette mesure. Donc comme l'ordonnance elle-même motive la mesure en disant que le chef a été animé par la volonté de marquer d'une empreinte particulière d'humanité, de clémence et de pardon. Hein, ça, c'est son pouvoir discrétionnaire.
Alors pour ceux qui craignent, disent que voilà, cette libération peut occasionner le retour de l'insécurité par certains parmi ceux qui sont libérés peuvent être de criminels. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent à cela?
Bon. D'abord, moi, je n'ai pas apprécié. Quand je constate que cette peine, quelqu'un qui a été condamné, par exemple, à 10 ans, il a déjà purgé la moitié et que la grâce présidentielle tombe en ce moment-là, moi, je ne peux qu'exécuter. Pour le reste, bon, s'il récidive, je crois qu'on va le reprendre. Et moi, je ne peux pas, sous prétexte que cette personne a été condamnée pour que ce condamné est dangereux, refuser d'exécuter. Non, là, c'est moi-même qui risque d'avoir des problèmes. C'est-à-dire qu'au départ, quand le chef signe l'ordonnance, lui-même ne sait pas qui va en bénéficier. C'est sur base des critères. Donc, il y a une petite commission mise en place. J'appelle le gardien de prison. On examine qui remplissent les conditions pour bénéficier de cette grâce.
Une vingtaine la semaine dernière. Est-ce que le processus va se poursuivre ou vous avez arrêté là?
Non, mais les 26 là sont ceux qui ont répondu, ceux qui sont éligibles, hein, qui ont répondu aux critères. Donc, nous nous arrêtons là. Maintenant, il faut attendre peut-être à une autre occasion, peut-être à la fin de l'année, parce que le chef de l'État le fait généralement à la fin de l'année ou bien quand il y a un événement comme pour l'indépendance, je veux dire. Quand il y a une fête, le chef de l'État peut décider de gracier. Et puis, ça nous aide aussi pour désengorger les prisons. Donc là, je ne sais pas quand est-ce que la prochaine mesure va arriver. Mais pour le moment, on s'est arrêté à 26. Peut-être qu'au prochainement, il y aura encore une mesure de grâce. Mais je ne sais pas dire quand.
Monsieur le Président du Congo, nous vous disons merci.
C'est moi qui vous remercie.
C'est par ici que prend fin ce journal. Il a été coordonné par Richard Junior Kamunga et mis en onde par Jean-Noël Mokondo.